Page à page, l'émission du livre, proposée et présentée par Claire Ambille.
Alicia, c'est bienvenue dans votre émission Page à Page. Nous nous retrouvons comme chaque jeudi de 9h30 à 10h sur les ondes de Radio Occitanie. Alors aujourd'hui, je reçois Maxence Fabiani, bonjour.
Bonjour.
Qui est responsable des nouvelles éditions Loubatière, une maison d'édition qui existe depuis déjà 30 ans et qui se situe à Portet-sur-Garonne. Il nous en dira davantage dans quelques instants, après, comme à l'accoutumée, quelques petites infos. Tout d'abord, comme vous le savez, le prix Nobel de littérature a été attribué à Jean-Marie Gustave Leclésio. Alors on rappelle que son premier roman, édité en 1963, Procès-verbal, avait reçu le prix Renaudot. C'est une littérature plutôt tournée vers le voyage et les autres. Alors ce prix Nobel récompense 45 ans de carrière littéraire, riche d'une cinquantaine de livres. Alors c'est un écrivain baroudeur et nomade. Et Jean-Marie Leclésio est né à Nice, mais il a passé une partie de son enfance en Afrique et il dit y avoir beaucoup appris. Il est l'un des romanciers voyageurs les plus énigmatiques de son temps. Il sait aussi mieux que personne raconter les scènes désertiques. D'ailleurs, un de ses livres s'appelle « Désert ». Il a été édité en 1980. Et son style est simple d'apparence, mais cultive une langueur et une longueur, et une lenteur, pardon, qui fait de lui un écrivain de silence et de poésie. Oui, c'est très poétique ce qu'il écrit. Alors, il est âgé aujourd'hui de 68 ans, mais il a comme projet, parce qu'il continue d'avoir des projets, d'écrire, et c'est tant mieux pour nous, un projet d'écrire une pièce de théâtre. Cette fois-ci, il se lance dans le théâtre, avec en mettant en scène le philosophe allemand Kant et le théologien suédois Swedenborg. Alors tout un programme pour réjouir ses plus fidèles lecteurs. Alors quelques titres pour à relire ou à lire tout simplement. Alors Procès-verbal en 1963, Désert en 1980, Le chercheur d'or en 1985, Cœur brûle et autres romances en 2004, c'est un recueil de nouvelles, L'Africain également en 2004, et puis le dernier en 2008, Ritournelle de la faim. Il a écrit également pour la jeunesse, comme par exemple Celui qui n'avait jamais vu la mer. Voilà donc, bravo à Jean-Marie Gustave Leclésio. Je pense qu'il est récompensé à sa juste valeur. Voilà. Ensuite, une autre info, rencontre demain, vendredi 17 octobre à 17h30 au forum de la FNAC Place Wilson, au premier étage, avec Jean-Paul Dubois, cet écrivain toulousain que nous connaissons bien, pour son dernier roman « Les accommodements raisonnables » publié aux éditions de l'Olivier. Donc si vous n'avez pas eu l'occasion encore de rencontrer Jean-Paul Dubois pour ce dernier roman, n'hésitez pas à y aller, c'est demain à 17h30 et j'espère le recevoir prochainement à Page pour qu'il nous en parle ici même. Ensuite, demain, mais c'est pas à la même heure, donc vous pouvez faire les deux, demain vendredi 17 octobre à 21h, c'est un peu plus tard, à la médiathèque de Tournefeuille, une rencontre avec Gilbert Baquet, ce poète toulousain qui est déjà venu à Page, une rencontre lecture autour de son recueil de poèmes Fin provisoire, et il sera accompagné de Lise Liénard, qui est pianiste et qui mettra en musique donc ses poèmes. Ça sera certainement très agréable, donc un peu de poésie dans ce monde. Ça fait du bien. Donc c'est demain 21h à la médiathèque, non pas la médiathèque, si, à la médiathèque de Tournefeuille. Ensuite, samedi 18 octobre à 15h au grand auditorium au rez-de-jardin de notre médiathèque à Toulouse, José Cabanis, une rencontre avec Jacques Semelin, qui est historien, politologue, écrivain, chercheur au CNRS et non-voyant. Et donc, il nous parlera donc ce samedi 18 octobre à la médiathèque en compagnie de Patrick Cabanel, qui est historien et professeur à l'Université du Mirail. Il nous parlera de deux de ses plus récents ouvrages qui s'appellent « Purifier et détruire, usage politique des massacres et génocides », édité au Seuil en 2005, et puis de « J'arrive où je suis étranger », qui est publié au Seuil également en 2007 et qui là raconte, c'est une autobiographie, J'arrive où je suis étranger, c'est une autobiographie où il raconte son arrivée dans le monde de la non-voyance. Voilà, c'est un très 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 beau livre que j'ai lu et vraiment je vous invite vraiment à rencontrer cet homme extraordinaire. Il était à Radio Occitanie hier par téléphone dans une autre émission que j'anime et vraiment c'est un homme vraiment remarquable. Donc je vous invite à y aller samedi 15h à la médiathèque José Cabanis. Ensuite, une rencontre à la médiathèque également José Cabanis, mardi 21 octobre à 18h, au Grand Auditorium au Rez-de-Jardin, avec Amélie Nothon, et oui, pour son dernier roman Le Fait du Prince, aux éditions Albin Michel. Et elle sera juste avant la médiathèque, elle sera de 16h à 17h30 à la librairie Ombre Blanche, 50 rue Gambetta. Donc n'hésitez pas, si vous êtes une fan d'Amélie Nothon, d'aller la voir à la librairie ou à la médiathèque José Cabanis. Et je termine cette petite page info avec une rencontre le jeudi 23 octobre, dans une semaine, à 18h, à la médiathèque, pareil, Grand Auditorium, au Rez-de-Jardin, avec Laure Adler et Sabine Vespiezer. Alors, Laure Adler est journaliste, éditrice et biographe de Marguerite Duras. Quant à Sabine Vespiezer, elle est éditrice. Et le thème de cette rencontre, c'est « Un grand écrivain peut-il être médiatique ?» Le premier thème avait été évoqué le 9 octobre dernier. C'était le thème « Écrivain, un métier ?» Et il y aura encore deux autres rencontres en novembre, dont je vous annoncerai les dates. Mais donc, si cela vous intéresse, le jeudi 23 octobre à la médiathèque José Cabanis à 18h.
Page à page, Claire Ambil.
Alors maintenant, je me tourne vers mon invité qui a réussi à parvenir jusqu'à Radio Occitanie malgré les bouchons de ce matin.
Difficile d'accès.
Ouais. Difficile d'accès, mais vous êtes là, c'est l'essentiel. Alors comme je le disais au début de l'émission, les nouvelles éditions Loubatière donc, existent depuis 30 ans.
30 ans, oui, cette année.
30 ans cette année, oui. Voilà, bah, c'est une bonne année alors, pour faire cette émission. Vous êtes situé à Portet-sur-Garonne, 10 bis boulevard de l'Europe.
Oui.
Et vous avez donc des publications fort diverses qu'on va évoquer ensemble. Hein. Vous avez un catalogue assez riche et
assez
très,
riche, assez
très divers. Voilà,
oui.
Il y a de la cuisine, il y a du tourisme. Enfin,
un peu de tout.
Il y a beaucoup de choses. Alors, on reconnaît des auteurs qui sont édités chez vous, qui sont déjà d'ailleurs passés à page et puis qu'on connaît bien ici dans la région, comme Progresso Marine,
oui,
et Pierre Lecause.
Oui.
Voilà, pour un premier essai qui s'appelait « L'Europe et la profondeur ».
Oui, nous allons publier en début de l'année 2009 le deuxième tome, si je puis dire, de cet essai qui s'appellera « Le traité du même ».
D'accord. Donc
Pierre Lecause, récidive.
Récidive, pour le plus grand plaisir des lecteurs,
bien sûr.
Greg Lamazère, que j'avais reçu ici pour l'Arc des Soviets. Alors, il a édité chez vous un recueil de nouvelles qui s'appelle «
Les saisons d'Ossegor ».
Les saisons d'Ossegor,
oui.
Voilà.
Savoureuses nouvelles que je vous conseille.
Eh bien, je vais les lire rapidement. Bientôt. Ensuite, il y a Philippe Berthaud,
oui,
qui a écrit « Le chant de lave ».
Le chant de lave, oui, exactement.
C'est de la poésie, hein, parce que bon, Philippe Berthaud
c'est
bon,
de la
a
poésie,
beaucoup d'arc.
C'est de la poésie, du récit, c'est un doux mélange. C'est quand même un livre assez copieux. Hein. Quand on dit poésie, souvent on pense à de petites plaquettes, des petits fascicules, c'est beaucoup plus riche que ça.
D'accord.
À partir d'un lieu très étrange qui est à côté d'Espalion, dans l'Aveyron, qui est un champ de pierre, en fait, que lui nomme le champ de lave.
D'accord, donc Philippe Berthaud qu'on connaît bien parce qu'il fait beaucoup de choses, hein, Philippe,
oui,
Berthaud, voilà,
très
il
actif,
chante,
hein,
très actif, ouais, voilà. Et puis Santiago Mendoza, pardon, qui a édité aussi chez vous.
Santiago Mendieta, oui, qui a édité un livre, enfin nous avons publié plutôt un livre sur les forêts pyrénéennes, qui est journaliste et écrivain.
D'accord, ouais, donc ça c'est vraiment, voilà, j'ai juste cité quelques noms,
oui,
mais
oui,
il y en a évidemment énormément plus. Alors, comme je le disais, il y a beaucoup de... C'est très diversifié. Alors, il y a les sciences, par exemple,
oui,
vous avez un rayon, donc sciences, vous éditez,
oui,
de la science.
Alors, de la science, pas de la science pure, ce ne sont pas des livres de science pure ou science dure, mais ce sont des livres qui touchent à la culture scientifique. Cette année, nous en avons publié deux, un de Yves Garrick, un de vos confrères, qui a écrit un livre sur le trajet professionnel de Michel Lefebvre, qui est un célèbre océanographe, enfin, spécialiste de l'océanographie spatiale. Ça paraît curieux comme ça, dans la même proposition, océanographie et spatiale, mais en fait, bon, c'est ce qui permet l'étude des océans à partir des satellites. Donc ça, c'est le parcours, la trajectoire assez exceptionnel de Michel Lefebvre. Et nous avons aussi publié de Jean-Christophe Sanchez une histoire de l'astronomie dans le midi de la France. Bon, pas tout à fait des origines, mais presque. Enfin, en tout cas, de la Renaissance jusqu'à nos jours, on va dire.
Voilà. Et c'est accessible. Enfin, je veux dire, quand on dit la science, ça peut faire peur, mais non.
C'est tout à fait grand public. La preuve en est que je les ai lus, et si moi je les ai lus et que je les ai compris, c'est que c'est possible, c'est accessible.
Bon, voilà. Donc c'est rassurant.
C'est tout à fait rassurant pour le lecteur. Oui.
Langue du Sud, vous en avez édité un cette année qui s'appelle Abyss Todenas.
Alors, c'est une réédition, en fait.
C'est une réédition.
C'est une réédition
de Bernard Vavassory.
C'est une réédition depuis. C'est un livre que nous rééditons régulièrement depuis 2003, qui est l'année de sa première publication. Et c'est le best-seller des éditions Loubatière, on peut le dire comme ça.
Ah.
Puisque, oui, on a dû en mettre en circulation, en vendre en librairie, environ 25 000 depuis le début, donc depuis 5 ans. Ce qui n'est pas si fréquent dans le domaine des langues régionales, ce qui veut dire qu'évidemment beaucoup plus de lecteurs, hein, il y a beaucoup plus de lecteurs que de livres. Donc voilà, Bernard Vavassory a fait vraiment œuvre utile en écrivant ce livre, et là nous allons à nouveau le publier, à publier la 11e édition là très bientôt. Voilà, c'est un excellent livre que tout le monde a peut-être chez lui, mais sans doute pas encore, parce que 25 000 exemplaires, ça veut dire qu'il y a quelques foyers dans la région qui ne l'ont pas. Donc je les invite à se le procurer.
À se le procurer. Alors du tourisme aussi, on voyage aussi avec les éditions Loubatière, avec à la découverte des Bastides du Sud-Ouest de Jean-Loup.
De Jean-Loup Marfin. Oui, qui est un livre qui présente ce mouvement particulier des Bastides, qui est un peu en fait le fondement, on peut dire, de l'urbanisme et de la ville moderne. C'est quelque chose de bon. C'est vraiment une histoire très très particulière, très belle et très intéressante, qui concerne en fait spécifiquement le Sud-Ouest. Bon, il y en a eu un petit peu partout en Europe, mais en France, le phénomène des Bastides s'est concentré sur le Sud-Ouest, sur l'Aquitaine, Midi-Pyrénées, essentiellement. Et c'est un beau livre qui permet de voir et de comprendre ce phénomène-là. Bon, des Bastides, il y en a partout, donc c'est assez facile de suivre le parcours. C'est accompagné d'une carte, d'un lexique, c'est extrêmement accessible.
Et puis il y a aussi à la découverte du Pays de Thau, de Sébastien Vessière, avec des superbes photos de Henri Comte.
Voilà, Sébastien Vessière, qui est un auteur et journaliste toulousain, Henri Comte, qui est photographe, qui vit sur le bassin de Thau. Et voilà, donc le bassin de Thau, c'est un... ils ont tenu à faire ce livre sur cet endroit un petit peu étrange, puisqu'un bassin, c'est un peu comme une mer, comme la Méditerranée, c'est de l'eau, mais la vie a lieu tout autour et dessus, évidemment. Et à l'intérieur aussi.
Et à l'intérieur. Alors après, bon, bien sûr, il y a aussi des récits comme l'Algérie à l'ombre de Maria, là, qui est sorti récemment, de Luce Rostol.
Oui.
Donc pour montrer que vous ne faites pas que du régional, vous faites aussi, des livres, des récits qui parlent d'autres pays, d'autres
lieux. Mais ce qui fait le lien entre tous ces auteurs que nous publions, bon, vous l'avez compris, nous sommes une maison d'édition généraliste, donc effectivement, vous l'avez dit au début, on publie toutes sortes de livres, aussi bien des romans que des livres de cuisine, ou des livres d'histoire, ou des livres de voyage ou de tourisme. Mais ce qu'ils ont tous en commun, c'est que ou bien ces livres parlent d'ici, enfin ici c'est au sens large, on va dire le Grand Sud, ou bien ils parlent d'ailleurs, mais les auteurs vivent ici. C'est le cas de l'Algérie à l'ombre de Maria, puisque Luce Rostol raconte son enfance en Algérie, mais Luce Rostol vit ici depuis maintenant une quarantaine d'années. Elle a vécu dans le Tarn-et-Garonne et aujourd'hui elle vit à Toulouse.
Et comme aussi Progrès sous-marine, donc qui a édité Exilé espagnol, La mémoire à vif.
Exactement, oui.
Aussi ici, et, bien sûr.
Voilà, nous avons déjà publié plusieurs livres de Progrès sous-marine qui défend la mémoire de ces oubliés de l'histoire, enfin oubliés en tout cas dans une large mesure, et parce qu'il est lui-même fils de deux pères et mères émigrés espagnols. espagnol, enfin, républicain espagnol immigré. Voilà, donc aujourd'hui, alors que les témoins directs de cette histoire disparaissent, parce que bah, forcément ils sont âgés, bien c'est la deuxième génération, comme celle de Progresso,
qui prend le relais, le flambeau,
voilà, pour ne pas oublier cette histoire qui est quand même... très importante dans l'histoire contemporaine européenne et très importante chez nous parce que bon, bah, ces exilés espagnols sont extrêmement nombreux.
Tout à fait. Et puis bon, c'est quand même proche, voilà, proche de notre région.
Oui, hein, oui, bien sûr, ils sont ici,
Et puis un autre aussi, par exemple, de récit qui a été édité cette année aux nouvelles éditions Loubatière, c'est « Je m'appelle Juana Morente ».
Oui, alors c'est le fond historique est le même puisque c'est toujours une histoire d'exilés républicains espagnols, mais traitée complètement différemment parce que là, ce n'est pas Progresso Marin est plus proche du témoignage ou du récit, alors que là, on est presque dans un roman autobiographique qui est donc la vie, l'histoire de cette femme Juana Morente qui est décédée maintenant, mais son histoire est racontée par le truchement des souvenirs de son fils.
Juan
Morente.
Et puis Mario.
Et Mario Granery Clavier, qui a un peu tenu la plume, qui a connu, parce qu'il était ami d'enfance avec le fils de Juana Morente. Donc il a connu cette femme, il s'en souvient fort bien. Et il raconte l'histoire de cette femme à quatre mains. C'est vraiment assez bouleversant parce que c'est ces histoires où l'individu qui est vraiment très très peu de choses se retrouve confronté et ballotté dans l'histoire du monde et voilà, et c'est comment il résiste à ça.
Et puis des nouvelles aussi, alors on l'a dit, Les Saisons d'Osegor, oui, de Greg Lamazère, oui, et puis également Fait Maison, un collectif.
Oui, Fait Maison est quelque chose de particulier parce que c'est la deuxième année que nous publions les résultats des travaux d'écriture menés dans les ateliers d'écriture sous l'égide de la boutique d'écriture, c'est une répétition, boutique d'écriture du Grand Toulouse, qui organise chaque année des ateliers qui sont sous la bienveillance, on va dire, chaque atelier d'un écrivain. Alors vous avez cité Philippe Berthaud tout à l'heure, oui. Philippe Berthaud fait partie, mais il y a aussi des gens comme Laurent Mauvignier ou Hélène Dufault, enfin d'autres encore, j'en oublierai de toute façon, donc je ne vais pas tous les citer. Et chaque année, ils travaillent autour d'un thème. Cette année, c'était autour d'illustration, enfin de peinture de Ronald Kershaw. C'était le thème. Voilà, ces peintures devaient servir de source à ces travaux d'écriture. Et nous, dans le cadre de ce partenariat, nous publions ces résultats. Alors, cette année, c'est donc Fait Maison. L'an dernier, c'était Le Grand Aglographe. Et on ne sait pas encore exactement ce que
pour
ce sera l'an prochain.
Surprise.
Surprise.
Du théâtre aussi, avec Les Noces de Saphir d'Yvonne Daudet.
Oui, ça c'est tout à fait. Bon, c'est quand même exceptionnel. On a, je crois que oui, c'est la première fois que la maison publie
une pièce de théâtre.
Bon, ça c'est quelque chose de très particulier parce que bon, le théâtre, bon, c'est parce que c'est un auteur avec qui nous avions déjà travaillé que nous avons publié son livre. Bon, nous ne sommes pas une maison spécialisée dans la publication de pièces de théâtre. Pour autant, ça nous intéresse, je dirais, comme tout nous intéresse a priori, ou presque.
Oui, la
tout.
Curiosité.
Voilà,
de,
la curiosité. Bon,
la
puis le théâtre,
aussi,
le théâtre, c'est quand même un art assez formidable. Alors, quand on peut participer à la publication d'une pièce, on le fait.
Et puis donc la poésie aussi, hein, comme on l'a dit avec Philippe Berthaud, le chant, oui, de lave, hein, comme on l'a dit tout à l'heure. Alors, la cuisine aussi,
la cuisine,
la cuisine du bassin d'Arcachon.
La cuisine, c'est très très important,
bien
sûr.
De Michel Doucy, et puis toutes, oui, les conserves de Jacques Bernadou.
Voilà, exactement. Alors ce sont des livres très différents, parce que la cuisine du bassin d'Arcachon de Michel Doucy est un livre de cuisine racontée. plus qu'un livre de recettes à proprement parler. Donc c'est presque de la littérature culinaire, on pourrait presque appeler ça comme ça. Jacques Bernadou, c'est le cinquième ou sixième ou septième peut-être livre de cuisine que nous faisons avec lui, car nous publions toutes ses réflexions culinaires, enfin toutes ses recettes petit à petit. Et voilà, donc ce sont des livres sur une thématique particulière cette année, donc c'était les conserves, mais on a republié aussi les charcuteries et ainsi de suite. Il y a plusieurs livres.
Donc c'est très, très divers, très hétéroclite, mais c'est bien.
C'est comme quand vous entrez dans une librairie, vous trouvez toutes sortes de livres. Voilà. Et bien aux éditions Loubatière, c'est pareil.
C'est
vous
pareil.
Trouvez toutes sortes de livres.
Et alors donc un nouveau polar cette année qui s'appelle Le piège du sang de serpe de Maurice Zitnicki.
Oui, Maurice Zitnicki
a l'air
écrit,
fort intéressant, j'ai lu le résumé.
Son premier polar et nous l'a proposé. Et comme nous n'avions jamais publié de polar jusqu'à présent, mais nous sommes à peu près tous lecteurs de polar. Donc quand on a vu la qualité du manuscrit, on s'est dit que c'était une très bonne occasion de commencer à en publier. Et voilà, ça a dû sûrement inspirer d'autres auteurs, parce que à la suite, nous avons reçu deux très bons manuscrits qui sont des polars que nous allons publier en 2009.
D'accord, donc c'est le premier pour une longue série,
aura sûrement une suite, parce que Boris Zitnicki continue de travailler sur d'autres épisodes, si je puis dire, d'un des personnages principaux, qui est une jeune
une fille de truand.
Celle-ci, hélas, elle disparaît assez vite.
Elle disparaît vite de l'histoire.
Alors que l'autre vivra plusieurs épisodes. Bon. Non, l'autre, c'est la jeune capitaine de police.
Je me rappelle. Voilà, la jeune capitaine de.
Donc qui exerce ses talents, si je puis dire, à Toulouse. Et voilà, c'est un polar très contemporain, parce que bon, il fait la part belle à l'arnaque informatique.
Oui, tout à fait. À l'arnaque, ce qui est bien de notre époque. Hein,
voilà
tout à fait.
Notre époque.
Et Maurice Zitnicki habite à Toulouse.
Comme souvent, enfin, Maurice Zitnicki exerce une autre activité que l'écriture. En fait, c'est un consultant international en système informatique.
Ah, d'accord. Donc il a pioché un peu dans son expérience.
Voilà, je pense que l'arnaque qu'il a imaginée est parfaitement vraisemblable, mais il s'est contenté de la porter sur le
papier. Bon, espérons qu'elle n'existe pas.
Espérons-le, parce qu'elle est presque invisible.
Bien. Bon, on arrive à la fin de l'émission, malheureusement. Vous faites aussi des livres d'histoire, hein, bien sûr. Avec le plus récent, en septembre 2008, le vocabulaire du soldat français de l'époque gallo-romaine à la guerre de 14-18.
Oui, c'est ça.
De Roger Taupin. Décidément, aujourd'hui, j'ai du mal avec les noms. De Roger Taupin.
Oui, exactement.
Voilà, c'est le plus récent, mais il y en a un autre aussi, hein, qui s'appelle Andrea Tron, le maître de Venise.
Bon, vous voyez que nous sommes très, une fois encore, très éclectiques,
oui,
et pas forcément, bien que nous ayons toujours notre ancrage régional, nous nous intéressons un peu au monde entier, je dirais, puisque Venise, ça commence à faire un petit peu loin de la Haute-Garonne.
Oui. Et puis des romans, bien sûr, on ne va pas tous les citer, mais il y a des Criminels et des Lâches,
oui.
Notre-Dame des Passes, si, je les cite quand même. Oui. L'Ours et la Pucelle en deux tomes, oui. La Porte des Sables, oui. La Traversée du Parc, Vent du Sud.
Et oui, car nous recevons de plus en plus de très bons manuscrits, donc c'est à nous de faire notre travail d'éditeur et de les porter au public. Le choix est toujours difficile, en fait. Hein. Le choix est toujours difficile parce qu'on ne peut pas tout publier. On reçoit beaucoup plus
de manuscrits qu'on ne peut éditer.
Mais bon, on essaie de faire notre choix. Alors,
Vous êtes plusieurs à choisir.
Oui, on est quand même plusieurs à choisir. Enfin, en général, c'est moi qui choisis, mais quand j'ai un doute, je demande l'avis de mon équipe.
Et donc voilà, si quelqu'un a envie d'écrire et qu'il souhaiterait vous envoyer un manuscrit, donc il peut vous l'envoyer 10 bis boulevard de l'Europe à Portée-sur-Garonne.
Exact, 31 120 Portée-sur-Garonne.
Un numéro de téléphone, le 05 61 72 83 50. 53.
Exact.
Et puis un mail contact@loubatière.fr. Loubatière.fr.
Oui, Loubatière, c'est pas au pluriel parce que c'est un nom de famille, mais ça prend pas... un S.
Voilà, bon, c'est au pluriel. Oui, voilà, quand je dis au pluriel, voilà. Ouais, c'est ça prend un S. Tout à fait, c'est très juste.
Et je... Non, c'est la manie du correcteur. Mais.
Vous avez raison, il faut corriger les choses.
Il faut aussi peut-être citer le site internet qui reprend toutes ces informations.
Oui,
c'est
tout à fait.
www.loubatière, donc avec un S. .fr, et là vous y trouvez tout notre catalogue, aussi un blog, les signatures, les rencontres, dont la prochaine d'ailleurs, qui aura lieu dans un mois à Toulouse.
Justement, voilà, vous serez présente au salon du livre organisé par le Centre régional des lettres de Midi-Pyrénées le samedi 15 et le dimanche 16 novembre.
C'est bien ça.
À Compense Caffarelli.
Oui, au Centre Pierre Baudis.
Oui, au Centre Pierre Baudis.
Centre de congrès Pierre Baudis. L'entrée est libre et gratuite, il faut le souligner. Et donc en présence d'une soixantaine d'éditeurs de la région Midi-Pyrénées. Et outre les stands et les livres et les auteurs, il y aura aussi des rencontres, des débats.
Donc ben, je réannoncerai de toute façon en temps et en heure, donc le 15
vous
et 16 novembre.
Vous viendrez peut-être nous voir.
Tout à fait. Nouvelles éditions, Loubatière, donc à portée sur Garonne. Merci Maxence Fabiani.
Merci Clérambine.
Et puis on se retrouve la semaine prochaine. Restez fidèles au programme de Radio Occitanie. À d'ici.